Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Joanie Bouffier-Hartmann. Bonjour Joanie.
Bonjour Anne-Charlotte.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence Hartmann & Partners, créée dans une volonté de penser systémique, c'est-à-dire en tenant compte de la subjectivité, voire de la spiritualité. De manière plus prosaïque, vous êtes très engagé auprès du Conseil de l'Ordre des architectes. Vous allez développer tout cela, mais pour débuter ce podcast, restons dans le prosaïque mêlé d'inattendu, le goût, votre goût d'architecte, là où on ne l'attend pas. Aimez-vous les plaisirs de la table, Joanie? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif?
Avec plaisir. Donc, je commencerai par dire que les plaisirs de la table sont très liés aux personnes avec qui on les partage. Et pour un souvenir gustatif, je parlerai donc d'une dorade au fenouil découverte et dégustée lors d'un voyage au Maroc.
Bon. Dans une ville marocaine, vous avez un lieu?
Oui, alors c'était une aventure un peu particulière où, avec une collègue architecte, nous faisions un voyage de découverte de la vallée de Tinrir. Et le pacha de Tinrir, après une rencontre un peu surprenante, nous a conviés à partager chez lui cette dorade.
Donc un souvenir aussi lié à la rencontre.
Exactement.
Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études?
Très bien. Je dirais que ma jeunesse s'est déroulée entre Paris et la modernité d'une ville nouvelle. Mon père étant très féru de modernité et se vivait comme un pionnier en quelque sorte. Donc, il a emmené toute notre jeune famille à l'époque s'implanter en ville nouvelle. Et du coup, j'ai pu à la fois comparer en quelque sorte l'expérience de Paris où ma grand-mère continuait à vivre à Auteuil en tant que pianiste et donc cette ville nouvelle qui représentait un autre type d'aventure spatiale.
Alors laquelle des villes nouvelles?
Alors, c'est la ville nouvelle d'Évry-Courcouronnes,
oui.
Donc dans laquelle j'ai passé un certain temps et en immersion, je dirais, tout en venant régulièrement à Paris.
Mais votre père n'était pas architecte.
Mon père était ingénieur, voilà, ingénieur. Oui.
Mais ingénieur pour la construction?
Pas du tout, pas du tout en lien avec la construction.
Oui.
Ingénieur électronicien au départ.
Bon, mais féru de modernité.
Féru de modernité, oui, puisque en premier lieu, avant de venir en ville nouvelle, il avait d'abord vécu avec ma mère au Grand Pavois, à Paris. Oui. Et donc, il a continué comme ça cette quête d'expérience moderne.
Alors, ce désir d'architecture, il arrive de ce contraste entre Paris et la ville nouvelle?
Au départ, c'est plutôt un désir de photographie. À 15 ans, j'ai demandé à avoir un appareil photographique. Donc, j'ai pu commencer un peu à regarder la ville ou les villes sous un angle particulier. Et ensuite, après le bac, donc moi j'avais comme ambition première de venir vivre à Paris quand même. J'étais très, très attachée au mode de vie, au quartier, à l'animation, à l'idée du quartier latin, de la vie intellectuelle et culturelle, voilà tout ça. Et du coup, après une maths sup au lycée Saint-Louis, face à la Sorbonne, je me suis orientée vers des études un peu différentes, en hésitant entre les beaux-arts et l'architecture. Mmh. Et l'architecture l'a emporté. Mmh.
Ça, l'architecture l'a emporté parce que c'était une voie plus sûre,
à la fois plus rationnelle, on dira, et également l'idée aussi qu'en architecture j'allais pouvoir participer à la fabrication de la ville, qui me fascinait, et également réunir tout à la fois les arts, les sciences humaines, ce que j'ai d'ailleurs découvert pendant les études de façon tout à fait passionnante.
Donc, vous êtes entrée à l'école.
Exactement.
Et alors, quelle école ?
Alors, j'ai été dans plusieurs écoles d'architecture. J'ai commencé à l'école UP4, donc à Charenton, école Paris-Conflans, pendant quelques années, et qui fonctionnait sous forme d'atelier, comme les ateliers à l'ancienne, un peu des Beaux-Arts. Et je suis ensuite allée à l'école d'architecture de la Villette, où j'ai passé mon diplôme ensuite avec Jean-Paul Flamand, historien et sociologue de l'architecture.
Bon. Et ensuite, vous avez démarré en agence ou en tant que salarié ou directement à votre compte ?
Oui, j'ai démarré ensuite donc en agence, tout en ayant travaillé aussi à des moments à mi-temps pendant les études. C'était possible à l'époque de faire le parallèle. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs types d'agences pendant 7-8 ans, des agences parisiennes, de tout type d'échelle, des petites agences, des moyennes agences, sur des projets aussi bien d'équipement public, collège, école, qu'ensuite d'autres programmes de logement, par exemple.
Et qu'est-ce qui vous faisait changer, en fait, d'agence ? Vous vous souvenez ?
Et qu'est-ce qui me faisait changer d'agence ? Le désir de découvrir aussi d'autres méthodes de travail à chaque fois et d'autres types de programmes.
Ou d'enrichir la pratique.
Oui, enrichir la pratique, exactement.
Et donc, un jour, vous vous dites, je me mets à mon compte ?
Voilà, c'est à peu près cela. J'avais rencontré donc, mon philosophe, mon partner's philosophe avec qui j'ai fondé l'agence. Donc, je l'avais rencontré à d'autres occasions. On avait travaillé ensemble sur des travaux artistiques, de relations, écriture pour sa part, photographie pour ma part. Donc, on avait eu l'occasion de collaborer comme ça. Et puis au moment où j'ai décidé qu'il était temps de suivre un projet vraiment du début à la fin et que ça devenait une nécessité qui ne m'avait pas été offerte tout à fait comme je l'espérais ou que j'escomptais en agence, je me suis dit, bien, allons-y.
Et c'est un projet qui vous a permis de démarrer ? Une commande ?
Et c'est une décision, oui, qui m'a permis de démarrer, puisque j'ai ensuite cherché mes premières commandes en allant rencontrer dans des colloques des maîtres d'ouvrage, des maires, et en leur demandant s'ils étaient ouverts aux jeunes architectes.
Vous vous souvenez de votre première commande ?
La première commande, ce sont trois maisons de ville pour un bailleur social à Boulogne-sur-Mer, Habitat du Littoral. Et c'était tout à fait ce que je cherchais, puisque j'avais orienté mes premières recherches vers la question du logement.
D'accord. Et ça fait combien de temps ?
Alors, ce premier projet a eu lieu entre les années 2008 et 2010. Oui, tout à fait.
Oui, donc il y a une quinzaine d'années.
Exactement.
Alors ensuite, vous souhaitez évoquer certains projets que vous avez menés ?
Oui, je peux parler de plusieurs. Évidemment, le choix est toujours difficile à faire.
Mais vous pouvez parler de tous. Hein,
si voilà, d'accord. À chaque projet ensuite est un peu à chaque fois une nouvelle histoire aussi. Se sont enchaînés des projets en réhabilitation, des projets liés à des espaces publics aussi, au pied d'une tour d'un quartier d'habitat social pour faire en sorte que l'espace soit plus fluide pour les habitants. Nous avons travaillé également sur des études urbaines préopérationnelles en co-traitance avec d'autres partenaires, des urbanistes, sociologues également, qui ont été assez passionnants. Alors là, c'était un projet également à Boulogne-sur-Mer, dans le cadre de l'ANRU 2 à l'époque. Et ça a été une... Non, alors j'avais eu l'occasion de travailler sur des projets similaires en agence. Du coup, j'avais déjà, comment dire, un peu l'idée de ce qu'on allait travailler, aborder, les ateliers avec les habitants, les ateliers avec les différents acteurs de la ville. Voilà, toujours en recherche de dialogue et d'immersion. Comme c'était à Boulogne-sur-Mer, évidemment un peu éloigné de Paris, je restais plusieurs jours sur place pour discuter avec les personnes.
Peut-être des projets plus récents.
Nous avons travaillé à Paris, à un moment sur le suivi d'un chantier en co-traitance avec une autre architecte, un projet qui avait été conçu initialement par l'agence TVK. On parle du NUMA à Paris, qui était un lieu de coworking. Et donc, il s'est agi de suivre un chantier dans un délai extrêmement court, avec des budgets contraints et donc des enjeux. Assez technique. Mmh. Également le Crous de Paris, avec qui nous avons développé différents types de projets, cette fois pour des restructurations de cafétérias pour les étudiants, également un auditorium et des espaces accueillants, on va dire. Pour le monde étudiant.
Bon.
Des projets également d'aménagement intérieur pour des particuliers qui nous arrivent encore de suivre et de prendre aujourd'hui, tout à fait. Puisqu'en fait, ce qui caractérise vraiment notre approche, c'est ce côté hétéroclite et ce goût des projets très différents. Donc, pour le Crous de Paris, nous avions fait un concours il y a quelques années pour un restaurant universitaire flottant au pied de la Bibliothèque nationale de France. Bon, concours qui a été gagné par un autre architecte, mais...
Oui, qui vous avait passionné.
Qui nous avait passionné, exactement.
Oui. Comment se déroule ce travail d'agence dans un esprit de philosophie, finalement?
L'approche de l'agence donc est complètement liée à sa structure initiale, puisque j'ai fondé l'agence donc avec Jeanne Éloi, qui est philosophe systémicien, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et ensuite, on a l'habitude de travailler avec différentes partenaires, soit en interne, soit ensuite en co-traitance.
Oui, en fait, c'est un travail d'approche qui vise à aider peut-être le client à déterminer vraiment son programme et ses besoins de manière assez fine.
Voilà, exactement. Un vrai travail sur ce programme, ses besoins, bien sûr des éléments de diagnostic poussés.
Peut-être un projet plus emblématique que d'autres, que vous n'avez pas encore évoqué.
J'évoquerai en fait, ou j'approfondirai un peu le projet avec un auditorium, des salles de formation et un grand espace un peu atrium. Comment dire ? En fait, cet espace était une restructuration d'un ancien lieu désaffecté en sous-sol. Donc, c'était une contrainte assez importante pour permettre d'amener les personnes dans un lieu quand même lumineux, éclairé, coloré. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment cherché et demandé à mon équipe, du coup, d'apporter des réponses sur ces enjeux de bien-être et de couleur dans un lieu qui ne bénéficiait pas de lumière du jour. Alors qu'on pouvait, comme c'était des espaces de formation, y passer quand même une journée entière. Donc, on a réussi à créer tout de même un atrium, un espace de lumière venant de l'escalier desservant le sous-sol. Et ensuite, un travail avec l'artiste Seven Mode qui a spécifiquement développé et élaboré avec le philosophe, la sémiotique qui est en quelque sorte se développe voilà, dans tous les espaces, aussi bien sur les sols, les murs, les plafonds, avec la couleur, la lumière.
Du graphisme ?
Des éléments de graphisme, mais vraiment sémiotique au sens le signe en relation avec le sens. Donc tous les motifs ou tous les éléments de fresque se répondent les uns aux autres spatialement.
D'accord. Alors l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?
Bien plus. Je crois que à la sortie de l'école d'architecture, j'étais, on va dire, avide de découvertes et d'expériences. Évidemment, le monde de la réalité du métier nous confronte à des dimensions qu'on n'imaginait pas au préalable, parfois un petit peu administratives, un petit peu contraignantes dans les temporalités, etc. Donc, tout en ayant des découvertes de relations et de partenariats. Simplement, aujourd'hui, c'est aller bien au-delà de tout ce que j'imaginais, à la fois par les rencontres dont je parlais tout à l'heure avec les maîtres d'ouvrage, les maires, les habitants qui vivent dans les lieux, et également mais la nature aussi des programmes, puisqu'au départ, moi, j'envisageais vraiment de travailler sur des logements, et finalement les rencontres, les opportunités, les appels d'offres, les co-traitances pour avoir des références aussi communes avec d'autres architectes nous ont menés dans d'autres aventures. Et en parallèle, pour un peu prolonger aussi cette idée, j'ai pu développer d'autres facettes de l'exercice lié à l'architecture, dans l'enseignement. Et également dans un certain engagement, comme vous l'évoquiez en introduction avec l'Ordre des architectes.
Donc vous êtes toujours professeur en école d'archi ?
Voilà, j'enseigne en tant que directrice d'études HMONP.
Ah oui ?
Voilà.
Dans quelle école ?
À l'école de Versailles.
D'accord. Oui, donc ça vous prend, j'imagine, un certain temps.
Oui, oui.
Oui. Et alors, vous êtes justement très engagée au conseil régional de l'Ordre des architectes. Et là, ont lieu les élections. Je crois que les votes viennent d'être clôturés.
Exactement. Les élections de renouvellement des conseils régionaux viennent de se dérouler. Très récemment, lundi dernier, les résultats ont été annoncés dans toutes les régions, donc en Île-de-France.
Ah oui, ça y est, les résultats sont là.
Tout à fait.
Bon, alors, j'ai un peu suivi ça. Il m'est arrivé d'ailleurs de le repartager. Il y a une équipe représentante qui se présentait pour être élue. Et comment se fait-il qu'il n'y en ait pas plus voilà. Parce qu'on voyait passer des postes sur le mouvement des architectes en Île-de-France. Mais pourquoi il n'y a pas d'autres équipes ? Parce que les architectes sont trop pris, qu'ils ne se constituent pas en équipe ?
Alors, c'est la première année d'élection où, en Île-de-France, il y a une seule liste qui se présente. Donc, c'est un moment un peu particulier. La plupart des autres années, puisque les élections sont tous les trois ans, les conseils régionaux se renouvelant par moitié. D'autres listes avaient été présentes, au moins deux, voire trois chaque fois. Et là, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'il était effectivement complexe de mobiliser les architectes pour se présenter. Et également, alors l'importance des critères de représentativité du territoire, qui sont des éléments essentiels, bien sûr, étaient parfois un peu complexes aussi pour simplement réussir à avoir une liste complète. Donc, des architectes qui voulaient se présenter ont eu des difficultés administratives, mais simplement de former une liste recevable en termes territoriaux. Les autres années, ils avaient réussi à le faire. Donc,
et vous pensez que c'est dû à quoi ? Un désintéressement ?
Je ne crois pas que ce soit un désintéressement parce que on a vu que beaucoup d'architectes étaient mobilisés avant les élections pour se présenter. C'est vraiment plutôt la difficulté de se réunir et faire liste ensemble.
Oui.
Du coup, on va évidemment remonter cette information pour à l'ordre auprès de l'ordre des architectes et des instances aussi nationales pour cela, pour faciliter aussi
pour l'année prochaine,
pour dans 3 ans.
Ah oui, c'est tous les 3 ans. Ah, ça me semblait plus récent. Tous les 3 ans. Alors, est-ce que pour les jeunes architectes, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle que joue le Conseil régional ?
Oui, en quelques mots, l'Ordre des architectes a une délégation de mission de service public par le ministère de la Culture et son rôle est à la fois régalien et politique. Donc, régalien, c'est-à-dire de tenue du tableau de l'Ordre des architectes, ainsi qu'un certain nombre d'autres missions qui sont inscrites dans la loi, et par ailleurs des missions donc, de représentation auprès des pouvoirs publics.
Alors, quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons ? Alors, c'est vrai, ça peut surprendre comme question, mais l'architecte étant amené à projeter sur un temps long, donc à anticiper sur l'avenir, il a quand même la faculté de voir, il a une certaine acuité à voir et à anticiper sur l'avenir. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je pose cette question.
Ce que je dirais, c'est comment appréhender le monde dans lequel nous vivons. Déjà en cherchant à le comprendre, à le lire, à bien comprendre les enjeux et les rouages en fait, des choses qui se mettent en place ou qui sont parfois instituées et mises en place depuis de longues années, qui peuvent être interrogées en fait. On peut chercher à questionner les principes pour faire évoluer aussi ce monde dans lequel nous vivons et apporter d'autres manières de faire, des changements de paradigme, voilà, des choses qui se pratiquent aujourd'hui en architecture, mais le principe de parcimonie par exemple en fait aborder l'architecture par le réemploi de matériaux existants, par des matériaux renouvelables.
Vous avez des relations avec la frugalité heureuse ?
Alors, je connais bien le mouvement et les ouvrages, par exemple, de Philippe Madec. Mmh. Pour ma part, je ne suis pas directement en lien avec ce mouvement, mais d'autres architectes que je connais très bien sont en lien très couramment. Ouais.
Comment imaginez-vous le monde de demain ?
Ce que l'on pourrait dire, c'est que le monde de demain est déjà là. C'est-à-dire à celles et ceux qui savent lire, des prémices sont en place. Nous avons une approche un peu organique des choses. Donc, à la fois la ville, l'architecture, l'humain, tout cela est en relation et en mouvement. Donc, le monde de demain peut se lire aujourd'hui. Le tout est de savoir le décrypter et l'orienter dans les bonnes orientations, enfin, dans les bonnes directions.
Mmh. Quel conseil donneriez-vous aux architectes, aux étudiants, pardon, en architecture aujourd'hui ?
Pour les étudiants en architecture, ce que j'aime donner comme conseil, c'est surtout de suivre leur voie. Comme chaque génération, ils cherchent vraiment du sens et le sens des choses, donc à la fois, puisque ce sont des jeunes gens aussi, parfois s'interrogent sur le sens de la vie. Mais donc, on se rend compte que par l'action, les choses s'incarnent. Le sens peut prendre forme et s'incarner. Donc, ne désespérez pas et comprenez bien votre histoire et l'histoire de l'architecture. Qu'on comprend bien le monde dans lequel on vit en regardant ce qui a eu lieu et en imaginant ce qui pourra advenir.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on sort un petit peu de la dimension historique, dans le sens où on voyait les choses de manière pérenne et figée, alors qu'on se rend compte que la pérennité est aujourd'hui plus dans le mouvement. D'ailleurs, vous l'avez évoqué. Quand vous, les étudiants ont conscience de ça, ont cette maturité-là ?
Mais alors, complètement. Les étudiants que je rencontre sont en réalité des jeunes professionnels qui ont déjà un diplôme en architecture, qui sont diplômés d'État en architecture. Et ils viennent donc pour l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. On commençait à exercer en agence. Et donc, sont souvent confrontés à la réalité aussi du métier, de la pratique. Et en fonction des parcours, ont des visions plus ou moins, on va dire, radicales, parfois, enfin, toujours passionnées et passionnant, mais parfois avec des quêtes de sens, vraiment, comme je disais un peu tout à l'heure, vraiment très fortes. Et l'enjeu, c'est de les accompagner, les aider à justement trouver cette voie qui leur est propre.
Alors, vous les aidez dans votre rôle à l'école, vous les aidez de quelle manière à trouver une agence qui les accueille, à les conforter, à suivre l'interface entre l'école et le monde de la pratique, justement. C'est ça, votre rôle à l'école ?
Oui, c'est ça. C'est à la fois leur donner des clés aussi de lecture de ce monde qui nous entoure et comprendre les modes de fabrication de la ville, les modes de construction, pas en termes techniques pour le coup, mais en termes opérationnels, c'est-à-dire comment... Je m'éloigne un petit peu, mais je voulais revenir plutôt au mode de fabrication pour comprendre en fait les rouages et les leviers, qu'est-ce qu'on peut changer, comment les faire changer, leur faire comprendre justement toute cette dimension politique aussi, en lien bien sûr avec l'écologie, enfin les enjeux écologiques, les enjeux du réchauffement climatique, les enjeux de changement climatique, et leur faire... leur donner des clés de lecture en travaillant avec eux, alors beaucoup sur leur sujet de mémoire. En fait, ils sont en agence d'architecture en parallèle. Ils ont un oral à préparer en fin d'année devant un jury et travaillent sur un mémoire. Donc, ils choisissent un thème qui a vocation à être un thème professionnel, donc qui intéresse les questions de profession et ou d'exercice donc de la maîtrise d'œuvre et le tout c'est de les accompagner dans la compréhension des questions soulevées par leur sujet avec des références d'ouvrages, de livres, des émissions de radio, des articles et des débats puisqu'on c'est un petit groupe à chaque fois, hein, 10-15 personnes et on fait un peu des ateliers, des tours de table. Donc chaque expérience aussi de chacun ou chacune est mise en perspective avec l'expérience de l'autre. Donc c'est très enrichissant.
Et vous trouvez que ils ont des sujets souvent convergents liés à l'écologie ? Très certainement. En ce moment, il m'arrive de participer à des jurys de PFE et on se dit qu'ils ont tendance maintenant à construire plutôt des cabanes. Bien sûr, c'est un peu caricaturé, mais en tout cas, ils sont très axés sur les structures bois. Vous retrouvez ça dans votre suivi de mémoire au niveau HMO ?
Complètement. Ils sont très intéressés par les questions de matériaux, biosourcés, donc le bois ou d'autres, de matériaux géosourcés également, la terre, la pierre, mais également de questions de réhabilitation aussi, de plus en plus. Hein, c'est vraiment une tendance très forte dans les agences également. Donc,
et le réemploi, j'imagine.
Et le réemploi et l'approche de la réhabilitation et de la structuration. La restructuration peut se faire de différentes manières par ces jeunes professionnels et beaucoup maintenant sont très intéressés par l'enjeu de prendre soin du bâti. Prendre soin du bâti, qui fait écho ensuite à prendre soin de l'écosystème. Donc l'écosystème aussi bien vivant, bâti, dans lequel on est tous immergés.
Oui. donc aussi une, comment dirais-je, une ouverture au vivant au sens large.
Exactement.
Mm-hmm. Vous souhaitiez parler d'un, évoquer un ouvrage.
Oui, tout à fait. Je souhaitais évoquer un ouvrage de Jean-Paul Flamand, donc à qui je rends hommage puisqu'il vient de nous quitter en 2023. Et cet ouvrage, donc, c'est La question du logement aujourd'hui en France, qu'il a écrit il y a une petite décennie. Dans la suite de l'ouvrage qu'il avait écrit aussi, qui s'intitulait « Loger le peuple ». Ces deux ouvrages, je recommande leur lecture aux oui. étudiants, puisque aujourd'hui, on sait que la question du logement est prégnante pour tout un chacun.
Mmh.
On en parle
beaucoup
sous forme d'une crise de logement qui s'éternirait et qui ne...
Mmh. C'est aussi la question des prix.
C'est la question des prix, aussi bien en location qu'en neuf, etc. Et donc, lire des ouvrages comme ça, donc la question du logement aujourd'hui en France, ça permet aussi de comprendre mais dans quel système on vit et dans quel système, de façon un peu historique, le logement s'inscrit à la fois côté habitat social comme côté privé.
D'accord. Bon. Un mot de la fin ?
Un mot de la fin, c'était... Merci beaucoup d'avoir conversé aujourd'hui.
Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci pour votre suivi du podcast, parce que je sais que vous le suivez. On est toujours heureux quand on reçoit des oreilles attentives à Comme d'Archi. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.